pour vous de retrouver l'actualité du cinéma avec N'oubliez pas l'ouvreuse. Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Guillaume Sidom. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous et toutes.
Comment allez-vous Guillaume?
Très bien. Est-ce que je peux passer un petit bonsoir?
Oh mais bien sûr, faites.
Alors je passe un bonsoir à une fidèle auditrice qui nous écoute chaque semaine religieusement, Blandine. Elle nous écoute à Saint-Giron sur 97.3 FM.
Eh oui, c'est là-bas. C'est là-bas, pardon, qu'on peut nous entendre sur 97.3. Guillaume Sidom, on sait, comme à l'accoutumée, que vous avez toutes vos fans qui sont là pour vous accueillir, mais elles ont de plus en plus froid et de plus en plus compliqué pour elles.
Eh oui, l'heure d'hiver. Moins de luminosité. On va essayer de mettre un peu de gaieté ce soir, peut-être, de vous donner envie d'aller voir des films.
Effectivement. Et puis, vous allez nous faire rêver, vous aussi.
Alors, je vais essayer un classique furieusement drôle, enlevé et qui donne tout simplement envie de vivre, de danser. Peut-être la comédie musicale la plus parfaite.
Dans le panier de l'ouvreuse, en fait, parmi ceux qui vont soutenir le panier de l'ouvreuse, parce que vous n'êtes pas dedans, Guillaume Sidom, comme Grégory Com n'y est pas non plus. Bien, justement, Grégory Com retrouve les séries ce soir et il nous parlera de la saison 2 de Culte qui cette fois-ci est consacrée au To Be Free. Vous savez que c'est le principe de cette saison, de cette série, pardon, c'est de changer de point de sujet à chaque saison. Le précédent, la saison 1, était consacrée à Love Story, comment on était arrivé à cette émission de télé-réalité, la première en France. Et puis cette fois-ci, dans la saison 2, ce sera autour des To Be Free, vous savez.
To Be Free, on love to be.
C'est
Partir un jour, qui avait été repris magnifiquement.
Par Juliette Armanet. C'est le titre du film aussi, dont elle est le personnage principal. Je disais donc les To Be Free, Boys Band, qui est le sujet donc de cette saison 2 de Culte. Grégory Com nous en parle tout à l'heure et nous sommes inquiets. Nous sommes inquiets, on peut sincèrement l'avouer. Parce que nous n'avons pas de nouvelles de Laurent Martin. On espère qu'il est en chemin et en tout cas qu'il ne lui est rien arrivé sur la route. On l'attend vivement, surtout l'ouvreuse. Elle est impatiente de l'entendre quand il va scruter l'affiche de la semaine. C'est ce qu'on souhaite. Et puis, dans le panier de l'ouvreuse, il y aura quoi d'autre? Il y aura bien sûr... Un petit problème, nous en reparlerons dans quelques instants, voyez-vous. Probablement des nouvelles de Laurent, mais on va pas
se tirer.
C'est le direct. Eh bien, écoutez, dans le panier de l'ouvre, je le dis, et on va scruter l'affiche de la semaine, dans tous les cas, avec ou sans Laurent Martin. Il y aura les reprises sur le grand écran et peut-être celle du petit avec le même Laurent Martin. Et puis des coups de cœur, bien sûr, parce qu'on a toujours des films, des manifestations.
Des expositions
aussi qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Bon début de soirée avec nous. Ça y est, le problème est réglé. Vous avez eu. Même la sonnerie du téléphone qui nous a prévenu. C'était un petit problème d'électronique. Pauvre Laurent poireauté devant le portail.
Ça prouve que nous sommes bien en direct.
Poireauté devant le portail depuis une demi-heure sans qu'on puisse lui ouvrir et sans que nous sachions qu'il était devant. En tout cas, tout de suite, en attendant qu'il arrive, on vous propose de regarder un film. Installez-vous confortablement.
Oh Pierre, Pierre mon chéri, je te retrouve donc enfin. Oh Pierre, Pierre tu es blessé. Oh parle-moi, parle-moi.
Créons un paradis pour nous,
là tout serait fleuri pour nous. Oh Pierre, serre-moi dans tes bras, jamais.
Le coup est sensationnel.
Oui, mais l'amont, quelle jolie voix. Elle est merveilleuse.
Ça a l'air de bien marcher, les gens sont contents.
Oui.
Notre amour durera autant que les étoiles.
Un amour qui dure autant que les étoiles. Mais quel est donc ce film auquel les personnages principaux du film dont vous allez nous parler assiste à la première?
Eh bien, c'est Chantons sous la pluie, film sorti sur vos écrans en 1952, signé Stanley Donen, Jane Kelly, écrit par Betty Comden et Adolph Green, avec évidemment Jane Kelly, Debbie Reynolds, Donald O'Connor, Ginger Rogers, musique signée Nacio Herbron et Arthur Freed, que vous entendrez à la fin de ma chronique. Ce film est une pièce majeure du 7e art. Qui n'a pas déjà chanté la chanson Singing in the Rain en dansant sous une pluie battante? Comédie musicale parfaite qui mélange nostalgie, humour, amour, musique et chorégraphie accrocheuse réglée au quart de tour et qui nous donne même accès aux coulisses d'Hollywood. Sortie en 1952, époque de l'âge d'or de la comédie musicale, Chantons sous la pluie est une mise en abîme du cinéma, un spectacle dans le spectacle qui raconte la révolution technique qu'est l'arrivée du cinéma parlant. Les acteurs ne sont plus alors uniquement des mimes, ils doivent savoir parler. Chantons sous la pluie raconte cette adaptation qu'ont dû avoir non seulement les acteurs mais aussi les techniciens, les metteurs en scène. Le film raconte donc parfaitement la naissance du cinéma parlant et les carrières de ces stars du cinéma muet qui ne passent pas le mur du son. Une scène du film reste gravée dans nos mémoires. Jane Kelly danse sous des trompes d'eau avec son parapluie après avoir embrassé la femme qu'il courtise, Cathy, jouée par Debbie Reynolds. Et en effet, il faut être, disons, dans un état second pour se mettre à danser sous les trompes de flotte. Ce moment où Jane Kelly fredonne nous permet de passer en douceur d'une scène dialoguée à une scène chantée. La comédie musicale, c'est l'art de la transition. Il chante Singing in the Rain, une œuvre écrite par Arthur Freed, parue en 1929. Le genre de scène que l'on peut voir et revoir 100 fois sans se lasser, mythique numéro pluvieux et heureux. Et à l'époque, le réalisateur Stanley Donen et l'acteur de Jane Kelly ne savent pas qu'ils tournent une scène mythique. Et si la scène est devenue légendaire, c'est parce qu'elle respire la simplicité et qu'il n'y a pas de meilleure idée que de danser de joie. L'histoire de cette scène est moins connue. 2 jours et demi de tournage sont alors nécessaires pour la réaliser. Et pour l'anecdote, le costume que porte Jane Kelly est en laine et à cause de la pluie, eh bien, il rétrécit au fur et à mesure des prises. Il va répéter aussi minutieusement, pose des repères à la craie sur tout le plateau. Voici pour la petite histoire dans l'histoire.
Et Chantons sous la pluie a été tourné en 1952. Un an après, tout juste après un Américain à Paris.
Et dont la vedette est aussi Jane Kelly. L'histoire du film se déroule en 1927 et se passe donc dans le milieu du cinéma, alors une période charnière basculant du muet au parlant. Ce qu'insinue le scénario de Chantons sous la pluie, c'est que pour une fois, eh bien, on va vous raconter la vérité sur comment on fait une comédie musicale sur l'histoire d'Hollywood. Mais évidemment, ce faisant, on triche encore plus puisqu'on va reconstituer cette vérité. Ça va être sans cesse ça ici, jouer entre l'illusion, la vérité et la vérité de l'illusion et le fait qu'on demande au spectateur finalement d'y croire, hein, c'est le cinéma. Et une fois qu'on lui demande cela, eh bien, il se trouve propulsé dans ce monde imaginaire qu'il prend pour réel, comme si nous étions dans un rêve. Puissant antidote à la mélancolie, Chantons sous la pluie est un éloge de la légèreté et de la grâce, défiant l'apesanteur, l'esprit de sérieux et aussi les chagrins de l'existence. Singing in the Rain, c'est le classicisme de la comédie musicale portée à son apogée. Les danseurs sont toujours au centre de l'image, filmés en pied. Bref, c'est la caméra qui est au service des corps et pas l'inverse. Ce sont d'ailleurs 2 danseurs qui ont réalisé le film, Jane Kelly et Stanley Donen. Il faudra attendre une dizaine d'années, 1961, pour que la grammaire du cinéma s'applique plus radicalement à la danse, avec gros plans et images saccadées. Ce sera West Side Story. En 1952, Claude Chabrol, alors critique au Cahier du cinéma, la sortie du film écrit « Ce film d'un danseur est le film de la joie ». Plus de 70 ans plus tard, je n'ai pas trouvé meilleure formule. Singing in the Rain, comédie musicale intemporelle, un film à voir et à revoir éternellement. Et à retrouver ce jeudi 30 octobre, 19h30, au Pâté Wilson à Toulouse, dans le cadre du cycle Galaxy Jaoui jusqu'au 20 novembre prochain, en partenariat avec l'ouvreuse Radio Présence et la Cinémathèque de Toulouse. Gagnez vos places pour deux personnes en nous envoyant vos noms et prénoms à cinéma@radioprésence.com. Retrouvez toute la programmation sur la Cinémathèque de Toulouse.com et en Blu-ray et DVD chez Warner Vidéo. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon, et surtout, allez au cinéma.
Sun's in my heart, and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. Yeah, 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 yeah. I'm happy again. I'm singing and dancing in.
Eh bien, il avait mis son costume, non pas en laine, parce que sinon il aurait rétréci. Il avait son parapluie, est arrivé en dansant, mais il a fallu qu'il enjambe le portail. Bonsoir Laurent Martin.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous. Oui, un portail vert ne m'arrêtera pas. Il avait été rouge encore, bon, mais là...
Mais un portail vert. Hein.
Ouais, ça va, ça passe.
Et... I see a red door and I want it painted black, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui.
Dites-nous, Laurent, vous allez nous proposer des films à voir à la télé ce soir.
Oui, j'ai sélectionné 4 films pour le cinéma à la télévision cette semaine, si vous arrivez à rentrer chez vous. Et il y aura un petit conseil de lecture à petit prix, parce que c'est la fin du mois, donc on n'a plus forcément de sous.
Oui, comme les débuts de mois, disait
Ouais, comme tous les moyennement aussi. Et il y a bientôt Noël qui arrive, donc les bons petits plans. Voilà, conseil de lecture, pas trop cher, ça peut être sympa.
Eh bien, tout est dit.
Tout à l'heure, ouais.
Tout à l'heure, pour ouais. Tout ça, eh ben, c'est parfait. Et nous, dans la bousculade du début de l'émission, j'avais oublié de vous dire que nous avions un invité, Sofiane Abassa, mais son emploi du temps ne lui permettait pas de rester avec nous au moment de l'émission et de participer au direct. Néanmoins, il a enregistré avec moi un petit... petit entretien dans lequel il va nous parler de la pâtée Aurore Party. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bonsoir Sofiane Abassa.
Bonsoir Louis-Marie.
Sofiane, vous êtes le responsable d'exploitation du cinéma Pâté la Bège, le plus important des cinémas de l'agglomération pardon, toulousaine.
De la périphérie toulousaine, on peut le dire. On a le Pâté Wilson qui est le premier cinéma en fait de l'agglomération. On en est très content parce que ça fait partie de la famille.
Oui. C'est votre grand frère, quoi.
C'est notre grand frère, exactement.
Les 30 ans, c'est l'année prochaine pour le Pâté de la Bège. Il va falloir souffler les bougies. Mais en attendant de souffler les bougies des 30 ans, nous allons parler d'une des choses que vous avez imaginées pour le 31 octobre, histoire de passer une bonne soirée d'Halloween. La Pâté Aurore Party, qu'est-ce que c'est la Pâté Aurore Party ?
Alors la Pâté Aurore Party, c'est la déclinaison d'une soirée qu'on avait faite à la Saint-Valentin, qu'on avait imaginée en fait, parce que on essaie un petit peu en fait de pousser les portes de l'exploitation cinématographique, donc de ne pas faire que diffuser des films. On a eu plein de projets, plein d'idées, et on essaie de les concrétiser le plus souvent possible. Donc ça s'est passé l'année dernière par une coupe des quatre ciné qu'on a fait conjointement avec trois autres cinémas de l'agglomération, qui s'est très bien passé. Et donc cette soirée, en fait, la Pâté Aurore Party, c'est la déclinaison de celle qu'on a fait à la Saint-Valentin, à savoir que on va proposer en fait un film, on va offrir un popcorn et une boisson bien évidemment, et suivi du film en fait, il y aura une soirée avec un DJ, un prestataire qui va venir pour les boissons alcoolisées évidemment à consommer avec modération. Ils vont danser, enfin le public va pouvoir danser, passer une bonne soirée jusqu'à 2h30 du matin, grosso modo. Donc transformer le cinéma plus ou moins en boîte de nuit.
Ah, alors transformer le cinéma en boîte de nuit, c'est une chose, mais alors ce qui nous intéresse, nous, dans une émission de cinéma, c'est le film que vous proposez. Alors le titre, Les Burgers Sanglants, mais il y a quelque chose de particulier dans Les Burgers Sanglants, son scénario.
Oui. Et c'est plus que très particulier en fait. On a eu la chance quand on a imaginé cette soirée en fait, on réfléchissait à un film et MK2 Distribution nous a fait une proposition sur laquelle on a sauté en fait. Ils ont déjà fait une première version de ce programme, enfin un premier volet de ce programme avec Ponce qui est un YouTuber assez connu. Donc grosso modo en fait le pitch du film c'est simple hein, et le scénario du film n'est pas forcément écrit à l'avance, en fait, c'est le spectateur qui va écrire le scénario. Le public, en fait, va se connecter à un chat et par des sondages, en fait, ils vont décider au fur et à mesure de l'intrigue du film. Donc, c'est une comédie d'épouvante, c'est un concept génial qui va se faire pour la première fois dans un cinéma. C'est une première mondiale. Donc, on a dit oui tout de suite parce que ça se mêlait très bien à notre idée de soirée. Et surtout, c'est hyper novateur et ça va vraiment dans le sens des nouvelles choses qu'on voulait tester.
Alors, ces burgers sanglants, il n'y a que chez vous qu'on pourra le voir ?
Alors, sur l'agglomération, sur Toulouse, il n'y a que chez nous, sur une séance unique.
Ça va se passer donc, comme vous l'expliquez, dans différentes salles en France. Et donc, c'est l'ensemble des spectateurs de partout qui va décider de ce qu'il advient des personnages centraux de ces burgers sanglants.
Exactement. Donc, tout le monde aura sa voix. Ça fonctionne un peu comme un vote. Donc, on reste dans un truc très, très démocratique, mais c'est la majorité qui va décider de la scène suivante, en fait.
Comme c'est tourné, on imagine qu'il peut y avoir un temps mort, mais on imagine seulement, parce que si on découvre le film au fur et à mesure, il faut justement qu'il n'y en ait pas. Ça va être compliqué, ça.
Ça va être compliqué, et surtout, on est vraiment très curieux de savoir ce que ça peut donner. Le premier volet qui a été diffusé sur Twitch, en fait, a très, très bien marché. C'est pour ça qu'ils ont décidé de faire les choses en plus grand et de proposer ça pour les cinémas. C'est une performance pour les acteurs, c'est une performance pour la réalisation, c'est une performance pour tout, en fait. Donc vraiment, on est dans un mix entre le cinéma, le théâtre, trouve le projet hyper novateur et hyper, hyper ambitieux. Et c'est une des raisons pour laquelle, en fait, on s'est associé.
On imagine que ça va être un huis clos, quand même.
Le pitch du film, c'est un huis clos dans un ancien abattoir. Donc oui, on est sur un huis clos. Ça m'aurait paru compliqué, en fait, de faire un plan séquence dans toute la France.
Effectivement. Et combien y aura-t-il d'acteurs, vous le savez ?
Deux principaux acteurs, ça, on en est sûr. Et après, c'est plus ou moins la surprise, en fait. C'est ce qui est assez rigolo. On a juste donné le pitch, en fait. Vous pouvez aller voir sur le site Pâté. Il y a juste le pitch du film. Le contexte, un petit peu comme dans un théâtre d'impro, quand on donne un contexte de base, on sait un petit peu où on arrive, le reste, c'est le public qui va le décider.
On a une idée de la durée ?
Le programme en tout dure trois heures, donc ça paraît long, mais les trois heures, ça comprend en fait le quart d'heure où on va laisser tranquillement les gens arriver et se connecter au chat. Il y a un QR code qui sera diffusé à l'écran. Ensuite, il y a une présentation par Ponce, donc le YouTuber qui va un peu donner le contexte et expliquer le projet. Et le film va durer 2h, 2h20, entre 2h et 2h20, grosso modo.
2h et 2h20, entièrement improvisé, enfin pour la plus grande partie.
Pour la plus grande partie, oui. Alors, je pense très sincèrement que les sondages seront un petit peu, quand même un petit peu dirigés, mais
orientés, vous voulez dire.
Orientés, oui, très légèrement, je pense. Mais oui, ça va être de l'impro. Donc, j'imagine pour des acteurs de faire 2h20 de programme sans une direction générale prédéfinie, ça a l'air costaud.
Et il faut une équipe technique conséquente aussi. Vous en avez une idée de l'équipe technique?
Alors, on n'a pas trop les infos, mais bon, il y a quand même, je pense, quelques personnes sur le plateau. Hein. Là-dessus, c'est vrai qu'on ne nous a pas donné trop de détails.
Tout
doit être une surprise. Tout ce qu'on sait, c'est que MK2 nous a quand même bien rassurés sur le fait que, techniquement parlant, il n'y aurait pas de bug. On fait une batterie de tests demain matin. On refait des tests avant la séance pour être sûr que tout fonctionne en termes de réseau, etc. et en termes de live. Après, c'est une première mondiale. Hein, donc moi, la première mondiale, je suis toujours preneur. On verra ce que ça va donner, mais je ne suis pas trop inquiet. Je pense que ça va être un moment très chouette.
Une chose encore, des bruitages, il y en aura probablement, et de la musique.
Surprise. Encore une fois, surprise. Moi, je ne demande qu'à être surpris, en fait.
Ben, c'est ce que vont demander les spectateurs qui vont se précipiter. Alors, je rappelle, c'est le 31 octobre prochain, donc c'est vendredi.
C'est ça, ce vendredi.
À 19h.
À 19h, ouais.
Jusqu'à 22h, approximativement.
Ouais, 19h, 22h en salle, et de 22h jusqu'à 2h30 du matin, se déroule la soirée avec quelques animations qu'on a prévues, avec quelques lots à gagner aussi. Donc on a essayé de faire les choses bien.
Le rendez-vous est pris.
Le rendez-vous est pris.
Sofiane Abassa, tous chez vous.
Le 31 octobre, à 19h.
À très bientôt. Donc,
à très bientôt.
Et on attend vos nouvelles.
Les burgers sanglants.
Oui, rendez-vous le 31 octobre, où encore une fois, vous allez pouvoir choisir, vous allez pouvoir décider. Et nous, il faudra de notre côté assumer ce qui va se passer.
Sofiane Abassa, qui est le responsable d'exploitation du cinéma Pâté la Belge, à propos de la Pâté Aurore Party, avec pour démarrer cette soirée furieuse d'Halloween de 19h à 22h, Les Burgers Sanglants, un film entièrement improvisé. En tout cas, il y aura des arcs narratifs probablement proposés aux spectateurs qui choisiront. Un film réalisé par Camille Duvelroy et Claire Saint-Pierre. Et puis, au générique, ils sont trois, Ponce, Anne Blagojevich et Isaac Songo Joseph. Ils ont tout fait pour que je me prenne les pieds dans le tapis.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
L'ouvreuse a eu peur qu'il vous soit arrivé quelque chose, Laurent Martin, mais vous êtes là pour lui prêter main forte et scruter l'affiche de la semaine avec elle.
À l'affiche cette semaine, La femme la plus riche du monde, le nouveau film de Thierry Cliffat, avec Isabelle Huppert, Laurent Lafitte et Marina Foïs. Alors, messieurs, pour avoir une histoire de gros sous, vous prenez un shaker, hein, et puis vous y mettez donc la femme la plus riche du monde, sa beauté, son intelligence, son pouvoir, un photographe, son ambition, son insolence, sa folie, un petit coup de foudre là-dessus, une héritière méfiante qui se bat pour être aimée, un majordome aux aguets qui sait tout sur tout le monde. Bien sûr, vous rajoutez un peu de secrets de famille, des donations astronomiques, et vous obtenez une guerre où tous les coups sont permis. Pour son sixième long métrage, Thierry Cliffa, à qui l'on doit le héros de la famille, s'empare avec malice et finesse d'un sujet ô combien difficile et compliqué. La fameuse affaire Bettencourt, hein, rappelez-vous, et puis ce lien particulier qui a uni Liliane Bettencourt au photographe François-Marie Bagnier. En changeant les noms des protagonistes, le cinéaste ne bégaye jamais avec les nombres, avec les nombreux articles et documentaires consacrés au sujet. Et il prend le parti de la comédie comme prisme de cette histoire de famille aussi déchirante par les secrets enfouis, douloureux, et puis les non-dits qui vont s'y libérer, qu'hilarante par le cynisme, la cruauté, et puis le sens aiguisé de la répartie que déploie façon éléphant dans un magasin de porcelaine parfois le personnage inspiré par Bagnier. Alors, pour camper cet homme qui fascine autant qu'il insupporte, et puis ses variations d'humeur et d'humour extrême, et ben, il fallait un comédien capable de jouer l'outrance dans les mots, le regard et le corps, sans précisément rajouter Laurent Lafitte et de cette trempe-là. Et d'ailleurs, on peut dire ici que la voix royale vers une nomination peut-être au César, hein, qui serait une première d'ailleurs dans la catégorie meilleur acteur, lui paraît grande ouverte, en grande partie, hein, car il ne cède jamais à la facilité du one-man show. Il est en connexion permanente avec ses partenaires, et puis quels partenaires, je rappelle leur nom quand même, ce sont vraiment de grands acteurs, Marina Foïs, Mathieu Demy, André Marcon, Raphaël Personnaz, que vous connaissez bien,
tout à fait,
mon cher Guillaume, vous étiez à l'école avec lui, et surtout Isabelle Huppert, qu'on ne présente plus, jouant les souveraines avec l'assurance et le détachement de celles qui n'ont rien à prouver à personne. Elle est consciente de tout, elle est dupe de rien dans cette danse au-dessus d'un volcan qui se déguste finalement avec délectation. À noter que pour ce film, Thierry Cliffa a eu différentes inspirations. Alors d'une part, c'est Phantom Thread de Paul Thomas Anderson, 2018, magnifique film.
Sur la
couture, ouais, donc ouais. C'est le côté raffiné du film. Et puis les liaisons dangereuses de Stephen Frears en 88, en raison des joutes verbales, vous savez, entre les personnages. Petite revue de presse sur ce film, un régal de drôlerie et de répliques irrésistibles, selon Closer. En 20 minutes, ils ne sont pas foulés, hein. Réjouissant, voilà, tout simplement. Petit bémol pour Télérama, Isabelle Huppert et Laurent Lafitte ont beau s'en donner à cœur joie, ils ne sauvent pas le film qui tourne trop souvent à la farce outrancière. Première n'a pas trop aimé non plus, a oublié de porter un point de vue sur cette histoire et à abattre uniquement la carte de la farce lourde sans approfondir quoi que ce soit. Thierry Cliffa manque le coche en multipliant les fautes de mauvais goût. À l'affiche aussi cette semaine, on va se tourner vers un classique de la littérature qui est mis en image par François Ozon, c'est bien sûr L'étranger, d'après l'extraordinaire roman d'Albert Camus, avec Benjamin Voisin, Rebecca Marder et Swann Harlow. Rappelez-vous, hein, si vous avez lu il y a très longtemps ce roman.
Au lycée, moi, peut-être.
Au lycée, oui, c'était il y a très longtemps. Si vous ne l'avez pas lu, hein, pour ceux qui ne connaissent pas, nous sommes à Alger en 1938. Meursault, un jeune homme d'une trentaine d'années, un modeste employé, enterre sa mère sans manifester la moindre émotion. Et le lendemain, il entame une liaison avec Marie, une collègue de bureau. Puis il reprend sa vie de tous les jours, mais son voisin, Raymond, vient perturber son quotidien en l'entraînant dans des histoires louches jusqu'à un drame sur une plage. Sous un soleil de plomb. Alors la puissance de L'étranger de Camus est aussi insondable que la psyché de Meursault, hein, son héros. Qu'y a-t-il derrière sa mine faussement apathique, qui ne verrait le mal ni le bien nulle part? L'homme accomplit pourtant ce que le Barthebail de Melville préférait ne pas faire, c'est-à-dire une action qui va l'engager totalement, une action irréversible, un meurtre en l'occurrence. On le sait, hein, le roman débute par une hésitation, le fameux peut-être hier, je ne sais pas. Bien sûr, adapter L'étranger en image, c'est se heurter au mur d'une interprétation, hein, condamnée à ne pas être suffisante. Rappelez-vous, Visconti avait essayé en 1967 avec Marcello Mastroianni et Anna Karina, mais le film avait été fraîchement...
Je crois que c'était Alain Delon qui était normalement en premier acteur, enfin en premier rôle, et finalement il avait abandonné.
D'accord, ouais. Mais le film a été fraîchement reçu à l'époque, toujours une adaptation très difficile. François Ozon superpose des couches en noir et blanc immaculé. C'est son deuxième film en noir et blanc après France. Rappelez-vous que vous aviez beaucoup aimé Guillaume, je me rappelle. Donc beaucoup de suavité, d'érotisation des corps, une musique savamment mixée. Voilà, pour mieux asséner à notre regard la subjectivité de sa lecture. Ça marche un peu dans la première partie avec un morceau plutôt antonionesque, hein, avec un Benjamin Voisin qui est assez juste, qui est comme ça le fantôme d'une existence qui bourdonne de partout. Et puis pour briller dans les dîners en ville, bah, il faudra ajouter que L'Étranger est avec le petit prince de d'Antoine de Saint-Exupéry, je l'avais dans le désordre, l'un des trois romans francophones parmi les plus lus au monde quand même, hein, faut le savoir. Je crois que le troisième c'est un Jules Verne, mais je ne suis pas sûr. Et puis pour le générique de fin, François Ozon a choisi le morceau Killing an Arab de The Cure, sorti dans les années 80, inspiré du roman et qui avait fait polémique à l'époque parce qu'il y avait des imbéciles qui ne connaissaient pas le roman, donc ils prenaient pour argent comptant qu'il fallait tuer des Arabes. Enfin bon, bref. Petite revue de presse sur ce film. France Info Culture a bien aimé. François Ozon donne une version cinématographique passionnante et éclairante de L'Étranger. Première a beaucoup aimé aussi. La force du roman et le mystère de son anti-héros indémodable se retrouvent dans ce film très réussi. Libération n'a pas aimé. Une relecture contemporaine ratée du classique d'Albert Camus. Et puis, à l'affiche cette semaine, il y a quoi ? Il y a d'autres. Il y a Yoroi de David Tomaszewski, On Falling de Laura Carrera, qu'on peut voir à l'Utopia, Borde Rouge. C'est l'histoire d'Aurora qui vit en Écosse et elle essaie de sortir de sa routine. Métro, boulot, dodo et rien n'est simple. On peut voir aussi Un Poète de Simon Messasoto, l'américain cosmographe. On peut voir ce que cette nature te dit de Aung San Suu, l'histoire d'un homme qui découvre une famille pas comme les nôtres. On peut voir ça au Grand Palais à Cahors ou à l'ABC à Toulouse. Le film d'action de la semaine, ce sera Smashing Machine de Benny Safdie avec Dwayne Johnson et Emily Blunt, qu'on peut voir au VO à Muret. On peut voir Regretting You de Joss Boone au Pâté La Beige. Le film d'horreur de la semaine, ce sera Les Intrus, chapitre 2, de Rémi Harlin. Et on peut voir pour vous, Guillaume. Et
c'est ça, dès 3 ans. C'est mon âge.
Dès 3 ans. Les Moods au cinéma de Marie-Laure Lautric. On peut voir ça au CGR Montaudran ou au CGR à Blagnac.
Have a mansion that's higher than the trees. I could have all the gifts I want and never ask, please. And I can fly to Paris. Oh, that's at my beck and call. So why do I go through life with nothing at all? But when I dream, someday it will come true.
Les problèmes d'un champion, catcheur de MMA, Mark Kerr. Alors, il était catcheur au départ et devient lutteur de MMA. C'est ce que raconte Smashing Machine, dont vous a parlé à l'instant Laurent Martin. Et dans cette histoire-là, cet homme va voir sa confiance ébranlée après une première défaite. Il va sombrer. Avant même que son couple accuse également le coup, c'est difficile et c'est plutôt pas mal fichu. Une chronique sportive bien jouée et surtout bien élaborée. À découvrir donc, signé Benny Safdie. Et ce que vous entendez là en ce moment, eh ben c'est Willie Nelson qu'on peut entendre dans le film. Bien sûr, le morceau s'intitule « When I Dream ».
I can go to bed long. Never know her name. But when I dream,
Et si nous retrouvions notre homme de loi des séries, Grégory Com, qui revient à ses amours, celui des séries, puisque la semaine dernière, il avait fait un petit pas de côté pour nous parler de Kaamelott, le film, non pas la série. Le revoilà donc avec Cult, la saison 2, qui après avoir été consacrée, la saison 1 avoir été consacrée à Love Story, cette saison 2-là est consacrée au To Be Free. Eh oui, à voir sur Amazon Prime.
Je déclare l'audience ouverte.
Partir un jour sans retour, effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés. Partir un jour sans bagage, oublier ton image sans se retourner, ne pas regretter.
Après mon énervement profond la semaine dernière sur Kaamelott 2 partie 1, je vous le répète encore une fois, c'est mauvais, et d'ailleurs c'est tellement mauvais qu'il fait deux fois moins bien au box-office français, donc ça montre quand même qu'il reste un petit peu de goût au public français pour ne pas aller voir ce que je ne peux même pas considérer comme une œuvre. J'ai décidé de me détendre devant des bonnes séries télé. Et je suis allé voir la saison 2 de la série culte sur Prime Video. Alors la série culte, c'est une série un petit peu particulière d'anthologie, c'est-à-dire que chaque saison va aborder un thème différent. La saison 1 était sur le love story de façon romancée, évidemment, c'est une série télé. Et la saison 2 est sur le phénomène des 2B3, ou les 2B3, si vous voulez parler en bon français. Ce boys band qui était culte fin des années 90, début des années 2000, et qui effectivement était un vrai phénomène de société. Alors, j'avais particulièrement aimé la saison 1, on en avait parlé, parce qu'elle allait sur l'envers des corps. C'était pas les personnes qui étaient dans le loft, même si on avait un focus sur Loana, c'était vraiment sur comment ça a été monté, pourquoi ça a été un phénomène, pourquoi ça a marché et son impact. Et j'attendais moyennement cette saison 2, parce que honnêtement, je me suis dit, comment on va rendre le sujet des To Be Free intéressant? Est-ce que vraiment il y a quelque chose à dire sur eux? Parce que effectivement, j'étais un petit peu resté sur mes a priori sur ce boys band des années 90. Et la saison 2 est tout aussi, voire encore plus réussie que la saison 1. Pourquoi et pourquoi ça marche? Alors déjà, toujours pareil, la façon de réaliser, de filmer, très dynamique, est excellente. On est à un niveau vraiment au-dessus des séries télé françaises classiques. Les acteurs sont très bons. Mention particulière à un ancien des To Be Free qui apparaît, qui a un rôle mineur, mais qui a un vrai talent d'acteur et qu'on est content de retrouver. Donc de ce côté-là, c'est nickel. L'autre côté, j'étais très surpris, on a Daphné Burki, qui est une des actrices principales de cette saison 2. J'étais très dubitatif. Franchement, c'est pas une personnalité de la télé que j'apprécie. Et je me dis, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Et dans le rôle d'une productrice un peu sans foi ni loi, qui est un peu presque sa parodie, elle est excellente. Elle est excellente et pourtant je partais avec des gros a priori, elle est très bon niveau, donc le casting est nickel. Maintenant, qu'est-ce que ça raconte? Et en fait, ça raconte l'envers du décor d'un groupe d'amis, parce qu'en fait, on a l'impression que c'est un boys band qui a été créé de base, mais en fait, pas du tout. C'est un groupe d'amis qui ensuite est rentré dans le showbiz et qui, surtout par rapport à son leader, voulait absolument la gloire à tout prix, et donc effectivement avec tous ses déboires. Ce qui va être intéressant, c'est que c'est à la fois un récit sur l'envie absolue de gloire d'une personne, comment les autres de son groupe sont entraînés là-dedans, mais aussi sur le showbiz derrière et sur ce que ça raconte sur nous, comment on était ciblé par le marketing et comment ce marketing est arrivé à nous vendre des produits dérivés d'un groupe. Mais ça montre aussi que ces gens-là étaient quand même des artistes pour les To Be Free et étaient surtout des gros travailleurs, ce que je sous-estimais totalement. Et que s'ils en sont arrivés là, c'est quand même que derrière, on avait des gens assez exceptionnels, certes, qui passaient par la moulinette du marketing, mais qui avaient un très bon niveau. Je ne parle pas obligatoirement au niveau d'art et de leur impact sur l'art, je parle au niveau de la somme de travail et de comment, en fait, ils étaient un miroir de notre société. Donc, Culte, saison 2, comme la saison 1, est en fait non pas une analyse de ce phénomène que sont les boys bands, mais une analyse de la fin des années 90 et de ce qu'on recherchait dans le showbiz et de ce qui nous faisait plaisir et ce qui vendait. Donc en fait, c'est notre analyse, encore une fois, c'est très bien fait, c'est justement écrit, c'est très bien interprété. Moi, je vous le conseille. C'est 6 épisodes, c'est pas trop long. Ça se dévore en une journée. Et au final, on revient sur des personnes qui sont plutôt touchantes et on reprend une bonne dose de nostalgie qui n'est pas désagréable. Je vous remercie.
Même pour avoir un autre regard, et changer le sien, surtout, sur les 2B3, ou 2B3, ou 2B3, je ne sais plus comment il faut dire maintenant, bien qu'il nous l'ait expliqué au début de sa chronique, Grégory Com. En tout cas, Culte, saison 2, à découvrir sur Amazon Prime.
Partir un jour sans retour, effacer.
On ne pouvait pas ne pas réécouter quelques mesures de ce titre phare des 2B3.
Si, je vous assure, on aurait pu s'en passer.
1997, à ne pas confondre avec le film sorti cette année, Partir un jour.
La version de Juliette Armanet est
très réussie, très aussi, réussie. Même si ce n'est pas le sujet.
Du coup, ils sont partis, ils ne les entend plus.
Ils sont partis à Carrefour, peut-être, et en oubliant de payer.
Non, il y en a un qui a fini de façon dramatique, mais vous le découvrirez.
C'est lui, Philippe Nicoïc.
Oui. Vous le découvrirez en regardant la série.
Son cœur qui bat. Pour savoir regarder, un ciel étoilé, tendre les mains.
Ce qui est bien avec N'oubliez pas l'ouvreuse et l'ouvreuse en particulier, c'est qu'on est capable de faire de grands écarts. En 1972, vous avez reconnu sa voix inimitable. Joan Baez interprétait deux titres de la bande originale du film de Douglas Trumbull, Silent Running. Un cas unique de film à redécouvrir parce que même s'il avait été encensé par la critique à l'époque où il est sorti, il a été un bide commercial retentissant à découvrir. Donc, alors, vous vous souvenez de qui était Douglas Trumbull, mis à part le fait qu'il ait été le fils de Donald. Mais c'est important, Donald Trumbull, qui est un des pionniers des effets visuels, qui avait travaillé sur le magicien d'Oz. Et Douglas Trumbull, n'est autre que celui qui a fait les effets spéciaux sur 2001, l'Odyssée de l'espace. C'est d'ailleurs certains de ces effets qui n'ont pas été utilisés dans 2001, l'Odyssée de l'espace, qui l'utilisent dans Silent Running, puisque ici, dans ce film, il est question du futur, bien sûr. La Terre est dévastée par un désastre écologique. Elle n'a plus de ressources naturelles du tout, plus assez en tout cas, pour survivre. Et la végétation a presque totalement disparu. Il y a un grand transporteur spatial qui s'appelle Valley Forge et dans lequel il y a une équipe de chercheurs qui cultivent des forêts. Et oui, il faut voir ce vaisseau spatial comme l'imagine Douglas Trumbull et qui avance comme ça avec Freeman Lowell qui est le botaniste de l'équipe incarné par Bruce Dern, le grand Bruce Dern. Je vais pas tout vous raconter, vous allez aller voir Silent Running, ça mérite le détour et le film est visible mardi prochain 4 novembre à l'American Cosmographe. C'est une soirée en partenariat avec la Maison Salvant, c'est le centre d'art et résidence d'artistes à Labège. Parce qu'ils font une exposition Sphère d'hommes, géographie mutante. Et il y aura un artiste d'ailleurs qui expose, qui s'appelle David Coste, et qui parlera de ce qu'il fait, et ce sera l'occasion de parler de Silent Running et de ce qu'il imagine le film décrit en 73. Et on a bien peur qu'on soit sur la voie de ce qui se passera dans le futur. Autre film, autre son. Thank you. Vous l'avez reconnu, la voix de Howard Shore? Non, pas du tout. Le silence des agneaux. Eh oui, le silence des agneaux. 1991, Jonathan Demme. Ce n'est pas la première fois qu'on découvrait Hannibal Lecter, mais en tout cas, avec les traits d'Anthony Hopkins, là, on avait peur. Très, très peur, même si Clarice Starling le poursuivait, en fait, poursuivait un copycat, puisque lui, Hannibal Lecter, est en prison et elle va utiliser, mais c'est dur d'utiliser ce qu'il peut vous dire parce qu'il vous manipule et on n'en ressort pas indemne. Will Graham en a fait les frais, puisque c'est lui qui l'avait mis agent du FBI, qui l'avait mis en prison, mais il n'a jamais pu s'en remettre. C'est comme ça qu'on le découvre dans le livre et c'est comme ça qu'on en parle aussi dans le film. À découvrir donc au Pathé Wilson vendredi 31 octobre en VO, 19h45. Et oui, c'est la soirée d'Halloween. Autant passer des films qui terrorisent un peu. En parlant de terreur, si on faisait un tour par Westworld de Michael Crichton, est-ce que vous vous souvenez de ce dont parle Westworld? Et en français, ça avait été distribué sous le titre de Monde Ouest. En fait, on est en 1973, c'est la date de la sortie du film, signé Michael Crichton, et on est dans un complexe de loisirs haut de gamme, où les gens qui ont de l'argent, beaucoup d'argent, peuvent vivre des expérience immersive dans trois mondes historiques. Westworld, l'Ouest américain du 19e siècle, Medieval World, l'Europe médiévale, et Roman World, dans la cité antique de Pompéi. Et tout va se passer à Westworld parce que les deux personnes qu'on suit dans la visite vont aller là. Et il y a un robot qui est terrible, mais ils ont de vraies balles dans les revolvers, mais des balles qui peuvent tuer les robots, mais eux ne peuvent pas être tués parce que ces balles ne peuvent pas agir sur eux parce que les pistolets déterminent la température des corps. Donc on peut pas tirer sur quelqu'un qui a une température de 39 degrés comme les nôtres, alors que les robots n'ont le sang froid. Sauf qu'il va y avoir des problèmes, et alors là, ces problèmes... Le parc d'attractions, on peut dire ça comme ça, va être dévasté.
Michael Crichton, qui est le papa de Jurassic Park.
Oui,
c'est
oui,
un roman à l'origine. Oui, c'est lui qui l'a écrit. Hein.
Et c'est Yul Brynner qui interprète le robot, le cowboy. Et d'ailleurs, il reprend exactement la tenue et l'apparence qu'il avait dans Les Sept Mercenaires.
Ah ouais, joli clin d'œil.
Exactement. Ouais. À découvrir donc, à ne pas manquer, mardi 4 novembre à 20h, en version originale, bien sûr, à Utopia Borde Rouge, et ça sera suivi d'une rencontre avec Olivier Tesquet, et cette soirée sera animée par Nikos Smirnaios, science de l'information et de la communication. Voilà pour ça. Et rapidement, il y a Agnès Varda, toujours au CGR, avec La Pointe Courte, film magnifique, avec deux acteurs formidables que sont Philippe Noiret et Sylvia Monfort. Pour le reste, c'est que des acteurs inconnus et pour cause, puisqu'ils sont non professionnels. Ils sont originaires de l'endroit où elle a tourné son film, Agnès Varda, La Pointe Courte, un quartier de 7. Et puis, une chose encore, au Pathé La Beige, lundi 3 novembre, en VO à 20h, The Dark Knight, Le Chevalier Noir, probablement avec le meilleur Joker. Peut-être après Jack Nicholson
oui, en 89,
ils se tiennent, Heath Ledger et lui sont extraordinaires. En tout cas, Heath Ledger dans ce film-là est absolument génial.
C'est bon, le Joker, c'est pas l'orange.
Exactement.
Avec la chanson de Prince, en 89.
Ah oui, non, mais en 89, pas dans celui-ci. Ne mélangeons pas tout.
On parlait du jus d'orange, moi je reviens à 89. C'est les mélanges des genres.
Oui, voilà. Ne pas confondre. Il y aura pas Prince dans celui-là. Ah, pas non, du tout.
Malheureusement.
Et puis, en ce qui concerne la Cinémathèque, vous pourrez découvrir dans un remake, aux aux abattoirs, à l'auditorium des abattoirs, Yojimbo, dimanche prochain, 2 novembre à 16h. Yojimbo, qui a fait l'objet de beaucoup de remakes. Alors là, c'est vraiment énorme. Alors, je vais vous en donner que 3, mais il y en a plus que ça. Et pour une poignée de dollars, c'est là un oui. remake de Yojimbo. Exactement. Là, c'est Clint Eastwood. Mmh. Il y a Django aussi, le fameux film de Sergio Corbucci, qui ouais. est un remake de Yojimbo. Et il y a Dernier Recours, un autre remake de Yojimbo. Et là, c'est Bruce Willis qui est le personnage central. Évidemment, personne ne peut égaler Toshiro Mifune dans l'original.
Excellent acteur japonais, oui.
Voilà pour les reprises sur le grand écran. C'est à vous, Laurent.
Le cinéma à la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 21h avec L'année Juliette de Philippe Le Guay, film de 95 avec Fabrice Luchini. Camille est maître dans l'art d'esquiver les engagements. Comme vous, Guillaume, c'est un don juan moderne qui cultive une phobie viscérale de toute attache sentimentale.
C'est moi.
Jusqu'à ce qu'un imprévu ne vienne bouleverser son équilibre. Voilà, on est entre marivaudage et étrangeté, et puis Luchini nous fait son numéro. Ou alors, ce soir, si vous êtes allergique à Luchini, sur Gulli, vous pourrez revoir Toy
Story. Ma chaîne
Story.
Préférée,
ouais. Ben oui, Toy Story, dont vous avez parlé brillamment dans votre chronique, parce que c'était les 30 ans du film, voilà. On passe à vendredi, France 5, 21h, De battre mon cœur, c'est arrêté, de Jacques Audiard, un film de 2005, avec Romain Duris, Sora Tika, Nils Aristrup, l'histoire de Thomas, qui incarne l'agent immobilier sans scrupules. Il semble avoir enterré toute once d'humanité, jusqu'à ce qu'un hasard, ou peut-être le destin, croise son chemin. Une œuvre fiévreuse, sensible et personnelle, dominée par l'étonnante composition de Romain Duris. Samedi, France 4, 21h, Les Passagers de la Nuit, de Michael Hirst avec Charlotte Gainsbourg. Le soir historique du 10 mai 1981, alors que les rues de la capitale s'embrasent pour célébrer l'élection de François Mitterrand, on suit le destin de différents personnages. Charlotte Gainsbourg impressionne dans cette chronique intimiste d'une grande sensibilité. On passe à lundi sur Arte à 20h55, un petit western, messieurs, avec Tombstone de George Pancosmatos. Film de 93 avec Kurt Russell et Walt Kilmer, servi par une réalisation solide, un western assez enlevé, qui bénéficie d'une distribution impressionnante. Le conseil de lecture à petit prix, L'histoire du cinéma français, 4e édition, de Jean-Pierre Jeancola et de Michel Marie. Le spectacle cinématographique est né, rappelez-vous, un soir de décembre 1895, puis très vite se développant l'industrie du cinéma avant que celui-ci ne devienne un art. Le livre est enrichi d'illustrations et actualisé. Cette édition de poche propose également un nouveau chapitre consacré au dynamisme du jeune cinéma français, notamment avec les réalisatrices et la Palme d'Or de Justine Triet en 2023. Voilà, un très beau livre à offrir ou à s'offrir pour 9,99€ aux éditions du Nom. Tenez, Guillaume, je sais que vous êtes un peu à court moi aussi, donc je vous l'offre de bon cœur.
Merci voilà. De votre générosité, Laurent.
Bonne lecture à vous. Merci. Et c'est fini pour le cinéma à la télévision cette semaine.
Non, je t'assure. Laisse pisser.
C'est Alex Baupin qui a composé la partition, il a écrit la partition et composé donc la BO du film de Thierry Cliffa, La femme la plus riche du monde. Allez, quelques infos pour Halloween. Vous voulez aller fêter Halloween, mais avec des petits, ben c'est possible, vendredi 31 octobre à 14h30 au cinéma ABC. À Toulouse, vous pourrez fêter donc Halloween avec un bijou signé Tim Burton, Frankenweenie. Voilà un bien bel objet, ou comment un chien est un lointain cousin de Frankenstein, et ça marche plutôt pas mal. C'est un film qu'on peut voir dès 8 ans, c'est bon à savoir. Toujours à l'ABC, il y a la Halloween Night Banger qui commence à 18h30. Une soirée Halloween avec 3 films inédits au cinéma. Eh oui. Ça commence à 18h30 avec Noise de Soo Jin Kim, puis Lesbian Space Princess de Emma Hous Hobbs et Leila Varghez à 21h, et enfin à 23h15, Jimmy and Stig de Joe Bagos. J'espère que je n'ai écorché le nom de personne, vous pourrez découvrir cette programmation, l'Halloween Night Banger 2025, dès 18h30 au cinéma ABC à Toulouse avec Greenhouse Paradise. C'est eux qui chapeautent cette programmation. Et enfin, toujours Halloween, on en avait parlé déjà la semaine dernière avec Virginie Sanso au VO Cartoucherie à Toulouse. Là aussi, dès 10h, des courts-métrages d'animation, Mon Petit Halloween, des films adaptés au jeune public dès 3 ans, cette fois-ci. À 14h, La Famille Adams de Barry Sonnenfeld. Et puis, pour finir, pour avoir vraiment peur, à 21h, le film d'Ari Aster, Midsommar, qui a provoqué des cauchemars à notre ami Guillaume Sidom, n'est-ce pas Guillaume ?
Tout à fait, et dont l'acteur vient de mourir, l'un des acteurs, enfin, qui a fait une apparition, une petite apparition.
Oui, alors là, vous me posez, on en a parlé, et alors évidemment, il a un nom, quand on ne l'a pas noté, impossible à retenir, mais il est célèbre pour avoir été ce jeune adolescent qui séduisait Dirk Bogarde dans Mort à Venise. Cet adolescent de 15 ans. Messieurs, quels sont vos coups de cœur ?
Les coups de cœur, ce sera pour La Femme la plus riche du monde, L'étranger et ce que cette nature te dit.
La Femme la plus riche du monde, un poète, L'étranger, remake à la Cinémathèque, La Galaxie Jaoui qui continue avec évidemment Chantons sous la pluie demain au Pâté Wilson, et vous pouvez gagner vos places à cinéma@radioprésence.com.
Et puis pour moi, ce sera, laissez-moi retrouver mes notes, les voilà, La Femme la plus riche du monde, Un poète, un film magnifique de Simon Messa Soto, ne ratez pas ce film, surtout pas. Un accessite pour L'étranger, et puis bon bah c'est deux films des années du début des années 70, Westworld et Silent Running évidemment. Puis Yojimbo, autant voir l'original. Merci messieurs.
Merci
bonne
à vous.
Bonne soirée.
On espère que vous avez passez un bon moment en notre compagnie. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de L'Ouvreuse à 20h, Nathalie Cardon. Salut.
Vous souhaitez réagir, jouer, communiquer, déposer une intention de prière ? Radio Présence met à votre disposition un serveur vocal au 0892.